On parlera ce matin de la responsabilité parentale, donc le père, la mère. L'arrivée d'un enfant, c'est toujours une grande bénédiction, mais aussi une grande responsabilité, puisque maintenant nous avons la charge d'un enfant. À notre époque, c'est pas toujours évident d'élever les enfants. Il y a toutes sortes d'influences mauvaises qui tournent autour d'eux. On peut citer trois grandes sources d'influence. La première, c'est bien sûr l'école. Ils passent une grande partie de la journée à l'école, ils reçoivent un enseignement. Une autre source d'influence, c'est la télévision. Elle n'est pas des moindres, puisque beaucoup d'enfants passent des heures et des heures devant la télévision. Il y a un message qui est véhiculé au travers de ces médias, télévision, internet. Et puis, troisième source d'influence, et qui doit être la plus importante, c'est les parents. Les parents qui, bien sûr, ont charge d'éduquer les enfants. Et on sait que les enfants ont un cœur plus perméable, qu'ils sont plus fragiles que les adultes, plus sensibles. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que dans notre monde, Satan va tout faire pour détourner nos enfants de la parole et les écarter du bon chemin, du chemin que Dieu a prévu pour eux. Donc les parents doivent lutter dans la prière, il y a toutes sortes de combats spirituels pour que nos enfants soient protégés, préservés. Alors j'aimerais voir quelques conseils dans la parole de Dieu avec vous ce matin et on va lire un premier texte, donc on va voir un premier point. Ce que la Bible nous dit, c'est prendre soin de ses enfants. Prendre soin de ses enfants, et donc dans 1 Timothée, chapitre 5, et au verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Dans la version Parole vivante, c'est écrit ainsi. Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille, et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi, il est pire qu'un incroyant. On voit l'importance donc que la parole de Dieu attribue déjà aux siens, à la famille. On va voir peut-être ces deux termes. Quand il est question des siens, dans le grec, c'est plutôt la famille au sens large, c'est-à-dire parents, grands-parents, voire même serviteurs, tous ceux qui pouvaient habiter à l'époque, du moins sous la responsabilité du père, de famille. Et puis le deuxième terme, ceux de sa famille, ça correspond plutôt au lien du sang, ou c'est le terme oikos qu'on pourrait traduire littéralement par la maisonnée, ceux qui appartiennent à la maison. Donc évidemment, les enfants en font partie, ils sont là, et vous avez vu là, ce que la parole de Dieu dit, si nous ne prenons pas soin de nos enfants, de nos proches, nous sommes pires qu'un infidèle, c'est comme si on reniait la foi, et notre foi n'a aucun impact, aucune valeur. Et on ne peut même pas dire qu'on est chrétien. Donc les enfants, nous pouvons affirmer ce matin qu'ils ne sont pas des êtres inférieurs ou des êtres, on va dire, des sous-hommes, mais ce sont des êtres à part entière qui demandent toute notre considération, notre attention, tant que parents et tout notre amour. Alors, première chose qu'on peut voir, nous faut les connaître. Proverbe chapitre 27 et verset 23 nous dit « Connais bien chacune de tes brebis. » Proverbe chapitre 27, verset 23. « Donne tes soins à tes troupeaux. » Il est important de connaître, bien sûr, là c'est par rapport au berger et ses brebis, mais quelque part l'enfant, il est fragile comme une brebis. « Connais bien chacune de tes brebis. » Quelqu'un a dit « Dieu nous connaît bien, mais il nous aime quand même. » Je crois que c'est vrai, il nous faut connaître nos enfants et les aimer, peut-être malgré des traits de caractère que nous n'apprécions pas en eux. Nous, tous nos enfants sont différents. D'ailleurs, on ne peut pas changer leur caractère. Ils ont un caractère qui est à eux. Ils ont reçu une personnalité. Donc, leur caractère évoluera certainement. Mais déjà, ils ont leur tempérament. Et ce qui a bien marché dans l'éducation avec un, par exemple le premier, ne va pas marcher forcément avec le second. Et puis le troisième, ça sera encore différent. Donc chaque enfant est unique, et puis en plus si vous avez une fille ou un garçon, c'est pas pareil. Et souvent on dit que les filles c'est plus difficile à élever que les garçons. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est pas pareil. Il va falloir user de tact, de psychologie parfois. Et chacun doit être considéré comme un enfant unique. Et on ne peut pas dire, ah bah tiens parce que ça a marché pour lui, hop, je vais faire la même chose. D'ailleurs il n'y a pas de recette, on le sait. Ça ne marche pas à tous les coups. Les enfants ne sont pas des machines. Ce qui est bien avec les machines, c'est qu'on appuie sur le même bouton, ça marche toujours de la même manière. Ce n'est pas le cas des enfants, on le sait bien. Il nous faut donc les connaître. Connais bien chacune de tes brebis, connaître leur tempérament, apprendre à les accepter, à nous adapter peut-être. Alors pour nous, ça va demander un certain temps, beaucoup de réflexion, beaucoup de patience. Et puis aussi, eh bien, on aura certains échecs dans l'éducation et puis on apprend au travers de nos échecs et Dieu nous aide. Mais il nous faut persévérer, frères et sœurs, et ne pas se décourager. Premièrement, donc, connaître nos enfants. Deuxièmement, les aimer. Et je vais citer un livre de Gary Chapman qui a traité tout ce sujet. Le titre, c'est « Le langage d'amour des enfants ». Et tout le livre traite donc comment les parents peuvent aimer leurs enfants par toutes sortes de langages. Et il en a relevé cinq. Alors, je les ai notés. Le premier langage, des paroles valorisantes. Voilà comment nous pouvons démontrer notre amour à nos enfants. Ces paroles qui construisent et qui communiquent une grâce. Par exemple, quand on dit à notre enfant « Je t'aime, tu es important à mes yeux, tu as de la valeur ». Donc, ces paroles affectueuses qui vont s'exprimer dans notre langage vont témoigner de notre amour pour l'enfant. Quand on lui dit « Je suis fier de toi, c'est bien, tu as réussi », etc. Par contre, toute critique, tout sarcasme, toute condamnation de nos enfants, bien sûr, doit être prohibée. Comme quand on dit à un enfant « Tu n'es qu'un nul, tu es un bon à rien, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie ». Et il y a bien des adultes qui ont souffert dans leur enfance d'un manque de considération de leurs parents, qui les ont rabaissés constamment aux yeux des autres de la famille, et puis qui souffrent et qui ont dû dépasser cela, bien sûr, avec l'aide de Dieu, d'avoir manqué de ces mots d'affection dans l'enfance. Et ces mots construisent l'enfant et sont nécessaires à son épanouissement, à sa solidité future et vont être bons pour sa vie. Donc nos paroles, on va dire nos paroles maladroites, parce qu'il n'y a pas de parents parfaits non plus, nous sommes tous imparfaits, et des paroles maladroites peuvent jaillir, bien sachons qu'elles vont blesser profondément le cœur de nos enfants, particulièrement quand il y a eu des échanges houleux entre les parents dont les enfants ont assisté à une scène de ménage, par exemple. Et effectivement, les enfants, dans leur jeune cœur, eux, ce qui arrive psychologiquement, c'est qu'ils se sentent responsables et ils pensent que papa, maman se disputent à cause de moi. Et on le voit souvent dans le cas des divorces, que les enfants se sentent responsables du divorce de leur papa et de leur maman. Ils ne sont pas nécessairement responsables, mais c'est inscrit dans leur esprit. Et c'est ainsi que, quand il y a des disputes, bien, il va falloir, nous chrétiens, avoir le courage de nous excuser, si on s'est disputé devant l'enfant, devant nos enfants, de nous excuser, de demander pardon devant nos enfants. Ça, c'est important pour qu'ils voient aussi notre manière de vivre le pardon et ne pas rester sur une difficulté, un conflit non résolu. Parce que pour eux, nous sommes des exemples. Et donc, nous devons nous-mêmes avoir des paroles valorisantes l'un à l'égard de l'autre en tant qu'adulte et rectifier le tir devant nos enfants. Deuxième langage, il y en a cinq langages d'amour pour parler aux enfants. L'auteur dit des moments de qualité. C'est intéressant aussi de noter, ce sont des moments entièrement consacrés à notre enfant. Alors quand on entend des moments de qualité, ça ne veut pas dire par exemple rester à côté de son enfant et de regarder la télévision. Parce que ce qui capte notre attention, c'est la télévision. Par moment de qualité, ce qu'on entend, c'est stopper toute activité et se concentrer sur l'enfant, mais sans autre chose, soit de faire un jeu avec lui, soit de prendre du temps avec lui, de parler avec lui, etc. Il faut éviter de dire « je n'ai pas le temps », parce que nos enfants peut-être nous demandent « j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela ». Alors nous, notre première réponse est « je n'ai pas le temps », parce qu'on a toujours du travail, des problèmes, des projets, des choses à préparer, des papiers, bref. On est bien occupé. Et une autre réalité, c'est qu'on a toujours le temps pour ceux qu'on aime. Et ça, l'enfant le voit aussi. Parce qu'on va lui dire on n'a pas le temps, mais on prend du temps aussi pour, si on a un passe-temps, si on aime faire quelque chose, on arrive à le trouver quand même ce temps. Donc, un des plus grands plaisirs des enfants, c'est d'avoir son papa ou sa maman avec lui pour jouer, pour s'occuper de lui. Bien sûr, on ne peut pas le faire tout le temps, toute la journée, mais d'avoir des moments, on va dire, d'intenses des moments de qualité intense où nous sommes là présents. Pas en train de penser à des problèmes, en train de penser à ceci, ce que je vais faire après, non. Mais vraiment vivre ce moment intensément avec l'enfant. Et ça, c'est pour l'enfant, c'est formidable. Il y a toujours des choses importantes qui vont nous retenir dans la maison, bricolage, jardinage, activité, peut-être on a ramené du travail à faire, choses importantes. Des fois, il y a la télévision, le journal télévisé, on n'aime pas être dérangé, bref. Donc l'enfant, s'il vient toujours à la dernière place, il va penser que lui, il est moins important que tout ce que pour nous, on met devant. Et dans sa tête, bien, il va se dire, mais moi, je compte pas pour mes parents. C'est pourquoi il nous faut parfois renoncer à certaines choses qu'on aime bien pour privilégier nos enfants, quitter un petit peu notre univers, entre guillemets, notre univers d'adulte, pour nous plonger dans celui des enfants. Il est intéressant, l'univers des enfants. Il est moins compliqué que le nôtre. Et ça fait du bien de quitter notre monde de problèmes. Je pense à Jésus qui dit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne vous convertissez et devenez comme des enfants, etc. Donc Jésus nous demande aussi de faire cette démarche sur le plan spirituel et de se mettre, quelque part, on va se mettre à la hauteur de nos enfants. Alors on est obligé de se mettre un petit peu plus bas. C'est intéressant de voir le monde vu des yeux d'un enfant. Déjà, quand on se baisse pour se mettre à sa hauteur, on se rend compte que pour lui, tout est élevé, tout est énorme, tout est gigantesque. Et c'est bien de se baisser pour parler à un enfant et pas toujours de lui parler de haut, mais de prendre le temps de s'agenouiller et d'avoir les yeux au même niveau que lui et ainsi de communiquer avec lui. Troisième langage, ce sont les cadeaux. Bien sûr, un cadeau surprise, ça fait toujours plaisir, même aux adultes. Et c'est pour ça que c'est même utilisé au niveau commercial, on vous fait un cadeau, puis ça vous engage à acheter, à acheter, à acheter. À notre époque, il y a même parfois de l'excès, on va dire, hein, dans les cadeaux. Mais ce qu'on peut dire d'entrée, c'est attention aux cadeaux dans le sens où il ne faut pas qu'on donne des cadeaux aux enfants pour remplacer un amour qu'on n'a pas donné ou pour remplacer un temps qu'on n'a pas su prendre avec eux en disant « voilà, j'ai donné un cadeau et j'en suis débarrassé ». Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Les petits cadeaux, d'ailleurs, ce n'est pas forcément des cadeaux chers, des cadeaux onéreux, mais des cadeaux à l'attention de nos enfants vont démontrer pour eux notre affection. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'ils vont toucher, qu'ils vont avoir avec eux. C'est une preuve pour eux de la valeur qu'ils ont à nos yeux. Donc c'est un langage d'amour. Et cela va procurer une grande joie à nos enfants si nous leur faisons une petite surprise, un petit cadeau, etc. Quatrième langage, les services rendus. Et là, j'ai pensé à cette parole de Jésus qui nous dit « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Ou alors « Lequel donnera un serpent, s'il lui demande un poisson ?» Et Jésus dit « Vous savez vous-même donner de bonnes choses à vos enfants. » Donc, pour nos enfants, nous savons ce qu'il faut faire pour leur rendre service, pour les aider. L'amour ne doit pas se limiter à un sentiment intérieur, mais il va se traduire par des actes concrets, donc en leur faveur. Ils vont avoir besoin de notre aide. Je prends l'exemple de notre petit dernier, Samuel, qui va avoir 3 ans. Donc Samuel, lorsqu'il veut attraper un jeu, par exemple, un jeu de société ou quelque chose, il est là sur la pointe des pieds, puis il n'y arrive pas parce qu'on a mis tout en hauteur. Et donc il a besoin d'aide. Et donc, il nous le fait comprendre. Après, il monte par les escaliers, il nous montre, il nous fait bien comprendre ce qu'il veut. Il veut jouer, il veut cet objet, il veut cet autre truc. Et c'est à nous de lui rendre service, de l'aider, s'il veut boire, de lui donner, etc. Et il nous fait comprendre ce qu'il désire. Et tous nos enfants, donc, ont besoin de notre aide, de notre présence. Et de ne pas leur dire, débrouille-toi, j'ai pas le temps, etc. Les services rendus sont pour eux une preuve aussi de notre amour et de notre intérêt pour eux. Et cinquième manière de parler aux enfants, c'est le toucher physique. Le toucher physique. Rappelez-vous Jésus, dont il est dit à un moment donné qu'il a pris les enfants dans ses bras et il les a bénis, il leur a imposé les mains. Donc il y avait un contact physique et les enfants, on le sait, ils ont besoin de ce contact, qu'on les serre, qu'on les embrasse, qu'on prenne soin d'eux. C'est un moment important pour eux, c'est un moment d'affection. Et si on ne prend pas le temps de le faire, bien ils vont souffrir d'un manque affectif, d'un manque de relation avec leurs parents. C'est vrai que ça dépend aussi de notre éducation, comment on a vécu notre enfance. Si nous-mêmes on a eu des parents distants, par exemple, on va peut-être avoir la même approche avec nos enfants. Donc il y a tout ça à considérer, mais en tout cas c'est un besoin. On sait que dans la culture, par exemple, on va dire la culture imprégnée du catholicisme, le contact physique s'est vu comme quelque chose d'un peu négatif, voire un péché. Et on est souvent imprégné de ça, il ne faut pas avoir trop de contact physique, c'est pas bon, c'est pas sain, c'est un péché. Voilà. C'est un petit peu dans la mentalité. En tout cas, en ce qui concerne les enfants, c'est une bonne chose et nous devons avoir des gestes affectueux à l'égard de nos enfants, des caresses, les embrasser, bien sûr, les prendre dans nos bras. Et cela leur parle beaucoup. C'est même plus que des paroles, c'est des temps d'affection avec nos enfants. Alors, on continue. On va parler maintenant d'un troisième point, c'est les aider financièrement. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Alors, on va lire ce texte. 2 Corinthiens, chapitre 12 et le verset 14. Alors, après les connaître, les aimer, les aider financièrement, ce texte dit, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Alors, le terme original ici, c'est thésaurizo, qui donne en français thésauriser, c'est-à-dire amasser des richesses. Ce n'est pas aux enfants d'amasser. Donc les parents, ce verset nous dit, selon, c'est Paul qui le dit, bon, peut-être il faut rappeler le contexte, Paul est en train de parler ici de se comparer lui-même en tant que père spirituel des Corinthiens, puisqu'il a annoncé l'évangile et quelque part il leur a donné une naissance spirituelle, c'est comme ça qu'on le comprend, il est un père spirituel pour eux, il leur a donné accès à l'évangile. Et donc, il dit, c'est au père à amasser pour les enfants. Dans ce sens-là, il reprend cette pensée. Donc, lui ne veut pas être à leur charge, mais qu'il veut leur donner en abondance. Bien sûr, on peut le comprendre aussi sur le plan matériel. Les parents ont la charge de leurs enfants jusqu'à au moins la majorité, voire plus longtemps, parce que avec les études maintenant, qui peuvent durer 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Donc les parents ont quand même une responsabilité à l'égard de leurs enfants, l'étude universitaire, les aider au mieux possible, bien sûr. Cela coûte beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut amasser, il faut préparer. En tant que parents, nous devons déjà envisager que les études vont coûter quelque chose et puis y penser, etc. C'est toute une gestion, c'est tout un investissement qui sera là, mais c'est un bon investissement quand on investit dans nos enfants, dans leur réussite, dans leurs études. Et ils auront besoin de notre aide jusqu'à ce qu'eux-mêmes puissent, par leur travail, subvenir à leurs propres besoins et puis prendre leur envol. Deuxième partie, après avoir parlé de ce premier point qui est prendre soin de nos enfants, j'aimerais parler maintenant du modèle. Nous sommes des parents, nous sommes un modèle pour nos enfants. Quand on parle du modèle, il y a deux sortes de modèles. Premièrement, le modèle négatif. Alors, on va lire un autre texte dans 2 Rois, chapitre 15 et au verset 9. 2 Rois 15, 9. Il est dit ici, « Zacharie fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. » Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Retenez bien cette expression, comme avaient fait ses pères. Et il y a quand même une influence des pères sur les enfants ici, et on va noter que c'est une influence négative. Et j'ai remarqué que dans la parole de Dieu, cette expression, comme avaient fait ses pères, elle revient souvent. Elle revient souvent et notamment dans le sens négatif, par exemple, il est dit dans 2 Rois 17-17, ils ont raidi leur cou comme leur père, raidir son cou, ou ils ont été infidèles comme leur père, psaume 78, verset 57, ou ils ont péché comme leur père, psaume 106, verset 6. Donc à plusieurs reprises, la parole nous montre que le mauvais comportement des parents va avoir quand même une certaine influence sur l'orientation que va prendre nos enfants. Par notre comportement, nous enseignons. Nos actes vont parler davantage que nos paroles. Et certains enfants, ce qu'on peut dire aussi, c'est que certains enfants ne se sont pas laissés influencer par leur père et ainsi ont récupéré la bonne voie. Ils ont réagi. Je pense à Asa, par exemple, dont il est dit qu'il a fait disparaître les faux dieux, les idoles que son père avait faites. Donc quelqu'un qui aurait pu mal tourner, vous voyez, eh bien par la grâce de Dieu, il est revenu dans le bon chemin. C'est dans 1 Roi 15-12. Où vous avez l'exemple de Gédéon, qui dans sa famille, son père avait installé un autel à Baal et un pieu sacré, non loin de sa maison. Lui, il avait vécu dans cette ambiance-là, on va dire une ambiance d'idolâtrie, une ambiance de péché. Et pourtant, dans sa rencontre avec Dieu, Dieu lui dit, voilà, tu vas aller chez ton père, tu vas détruire l'autel à Baal, le pieu sacré, etc. Et il va pas suivre l'exemple donc de son père, il va bien réagir et va enlever toute idolâtrie, toute chose mauvaise dans la maison. On pourrait citer aussi Abraham. Abraham, dont il est dit qu'il n'a pas servi les faux dieux de son père Térak. Ça, c'est dans Josué, chapitre 24, verset 2. Ce qui nous montre qu'Abraham, bien, à la fois entendait parler du Dieu de la Bible par ses parents, mais en même temps, la Bible dit que Térak, il servait d'autres dieux, de faux dieux. Donc, merci Seigneur, il n'a pas suivi cette mauvaise influence de garder tous ces faux dieux. Puis, il faut dire que Dieu s'est révélé pleinement à Abraham et il a fait le nettoyage. Et il a suivi une bonne influence. Donc, dans ce monde, il existe une certaine loi d'hérédité. On dit parfois que oui, un père alcoolique, certainement son enfant aussi sera alcoolique, un père qui bat sa femme, lui-même adulte battra sa femme, etc. Une certaine loi d'hérédité. Mais en tout cas, en Christ, il est sûr que toute loi d'hérédité négative est brisée dans le nom de Jésus. Et nous avons beaucoup d'exemples comme ça, où les parents étaient mauvais, mais les enfants ont été bons spirituellement. Merci Seigneur. Le modèle positif. Puisqu'on a parlé là du modèle négatif, il existe un modèle positif. 1 Timothée chapitre 4 verset 2. Donc, c'est une parole de Paul à Timothée qu'on peut appliquer aux parents. 1 Timothée chapitre 4 verset 2, Paul lui dit « Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. » Alors j'ai repris cette parole en l'appliquant aux parents, qui va très bien pour nous, puisque nous devons être des modèles positifs à l'égard de nos enfants dans notre manière de vivre l'évangile à la maison. Il ne s'agit pas d'avoir un comportement, on va dire, religieux, entre guillemets, le dimanche, ou quand on est dans une réunion, et puis de vivre complètement dans le compromis à la maison. Cela, les enfants le voient, et ils ne sont pas dupes. Si nous ne sommes pas vrais, cela ne passera pas. Donc, je reviens à ce texte. Il est question d'être un modèle dans nos paroles, premièrement. Veillez à ce qu'aucun mauvais propos n'atteigne leur cœur. Je pense particulièrement à nos conversations en tant qu'adultes, voire des conversations sur l'Église, voire des conversations sur le pasteur, sur les anciens, sur tel ou tel membre de l'Église, devant nos enfants, qui peuvent véritablement leur donner une image de l'Église, mais c'est terrible l'Église, finalement, on entend des choses. Et il y a vraiment des conversations dont il faut veiller que nos enfants n'assistent pas, si nous avons besoin de parler de certains problèmes. De le faire à un autre moment, de veiller à ce qu'ils ne soient pas là. Il faut aussi qu'on prenne cette bonne habitude de dire des choses positives, des paroles encourageantes. Non seulement aux enfants, mais à notre conjoint. Par exemple, on demande toujours à nos enfants de dire merci, dis merci. Mais est-ce que nous-mêmes nous disons merci? C'est vrai que c'est nous-mêmes qui sommes les modèles. Quand on prend quelque chose, merci, voilà, on le dit. Et le fait de le dire, quand on le demande aux enfants, ça passe bien parce qu'on le fait nous-mêmes. Nous-mêmes ayons des paroles positives en tant qu'adultes. Je parle au niveau des conjoints, l'un à l'égard de l'autre, pour que nos enfants nous entendent dire de bonnes choses l'un à l'autre, et pas des critiques, des jugements, des mauvais propos, etc., qui vont affecter le cœur de l'enfant. Être un modèle par notre conduite, dit ce verset. Notre manière de vivre, elle doit refléter Christ, bien sûr, et donner à l'enfant envie de se convertir. nous devons nous respecter, nous aimer, être à l'écoute, etc. Vivre vraiment dans l'amour du Seigneur, dans notre famille. Aussi, être un modèle dans notre amour. La manière dont les parents vont s'aimer, vont témoigner leur affection, va être un repère pour l'enfant, lui-même, pour construire sa vie de famille. Et si il voit son père ou sa mère, ou son père qui rejette sa mère, qui parle durement, qui ne la prend pas en considération, ben ça va lui inculquer un modèle, en quelque sorte, qui va être pas bon. Donc on a besoin de la grâce de Dieu aussi pour transmettre cet amour. Avec l'amour, on montre aux enfants qu'on peut surmonter les difficultés, les différences, les conflits, les résoudre. Avec l'amour, on montre aux enfants qu'on reste unis dans les difficultés et que, véritablement, on montre aux enfants ce que c'est le sens du mariage. Être un modèle dans notre foi, dit Paul à Timothée, nous devons aussi montrer à nos enfants que nous vivons dans la foi et que nous ne sommes pas là en train de douter chaque jour, nous inquiéter en disant « Oh là là, mais le Seigneur ne répond pas, le Seigneur n'agit pas, le Seigneur ne fait pas. » Parce que quelque part, nous communiquons un doute à nos enfants si nous mettons toujours en avant ben, notre doute, notre incrédulité. Alors, nous ne sommes pas un modèle de foi. Notre vie appartient à Dieu et nous devons lui faire confiance en disant ben, « C'est vrai, on ne sait pas comment on va faire, mais on croit que le Seigneur va pourvoir à nos besoins. » Ça, on peut le dire, que nos enfants l'entendent de notre bouche, qu'on vit dans la foi et qu'on s'attend à Dieu pour tous nos besoins, que ce soit les besoins financiers, matériels, etc., les besoins divers de notre famille. Ensuite, notre pureté, être un modèle en pureté. On sait très bien qu'on vit dans un monde impur, où le péché domine, s'infiltre partout, et il faut être très vigilant en tant que parent à ce que nous regardons à la maison, par exemple, je pense aux programmes télévisés. Parce que le soir, c'est facile de regarder un truc, mais est-ce que c'est bon pour notre âme? Et est-ce que c'est bon pour l'âme de nos enfants? Donc il faut veiller, véritablement en tant que parent, à être des modèles. Le pire étant de laisser, par exemple, un enfant seul avec la télévision, et regarder la télévision jusqu'à 1h, 2h du matin, n'importe quel programme libre, sans être là pour l'aiguiller. Même les non-croyants recommande de ne pas laisser les enfants seuls livrés à eux-mêmes. Et c'est pour ça que ces dernières années, il y a eu tout un effort au niveau des parents pour les sensibiliser. Ils ont même mis des sortes de sigles pour montrer que ces émissions, ce n'était pas moins de 12 ans, moins de 14 ans, 16 ans, etc. Et pour, si vous voulez, faire prendre conscience aux parents qu'il y a certaines émissions qui ne sont pas bonnes pour leurs propres enfants. Bon, normalement, les parents, ils devraient le savoir. Mais même maintenant, la télévision, au niveau des médias, ils en ont pris conscience que c'était un problème et ils le communiquent. Je pense à Internet. C'est une véritable inconscience que de laisser un enfant seul sur Internet. C'est véritablement une inconscience. Parce qu'il y a toutes sortes de sites qui sont mauvais pour lui. Il faut l'aiguiller, il faut l'aider. C'est comme si vous laissiez un enfant avec une boîte d'allumettes et vous le laissez là. Eh bien, il va se brûler. Il va se brûler. Donc, on doit veiller à tout cela. Et bien sûr, je citerai la parole de David au psaume 101, verset 3, qui est valable pour nous. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Psaume 101, verset 3. Alors, les parents, ça doit être les premiers à faire du nettoyage dans la maison et à montrer leur maîtrise de la télévision ou d'Internet en rejetant fermement tout ce qui est mauvais. Parce que si nous disons à notre enfant « Toi, tu ne regardes pas, mais moi, je regarde », quelque part, ce n'est pas bon. Parce que nous ne lui montrons pas véritablement le bon exemple. Donc, il nous faut, en tant que parents, nous appliquer à nous-mêmes ce qui n'est pas bon pour lui, ce n'est pas bon pour moi non plus, et nous appliquer à nous-mêmes cette discipline. Eh bien, il y a un moment donné où il n'y a plus forcément des choses intéressantes et je vais éteindre, et chez certains c'est difficile. Donc que Dieu nous aide dans ce sens-là. Je voulais parler des exemples positifs, parce que si vous regardez par exemple 2 Timothée chapitre 1 verset 3 à 5, vous voyez ici que Timothée a bénéficié du témoignage de sa grand-mère et de sa mère. Sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice eh bien, ont transmis la foi sincère en Dieu. Et cela a porté du fruit jusque dans la vie de Timothée. Donc, on voit quand même que notre influence spirituelle va porter du fruit. On peut penser sur les générations comme, dans l'Ancien Testament, vous avez Abraham, qui va avoir une influence sur Isaac, qui va avoir à son tour une influence sur Jacob, qui va avoir à son tour une influence sur Joseph, etc., etc. L'influence des parents sur les enfants. Et on parle d'une influence positive. Je pense aussi à Philippe. Philippe, dans le Nouveau Testament, dont il est dit qu'il avait 4 jeunes filles qui prophétisaient. Donc une bonne influence, l'influence des parents sur les enfants. Troisième partie, sur ce sujet des parents, la responsabilité parentale, c'est l'éducation. Éduquer ses enfants. Alors, j'aimerais lire un texte dans Éphésiens chapitre 6, verset 1. Premièrement, l'éducation morale. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Dans ce texte, vous avez 2 termes qui sont importants par rapport à l'éducation. Le premier, c'est l'obéissance. L'obéissance, car l'enfant n'obéit pas naturellement. C'est un long processus difficile. L'enfant se croit roi. Il croit que tout lui est dû. Il est assez égocentrique. Et donc, il va falloir lui apprendre l'obéissance. Il doit apprendre les règles de vie commune, par exemple. Il doit apprendre à obéir. Il est important de lui fixer des limites. Toutefois, on ne va pas transformer notre maison en camp militaire, mais il y a quand même certaines limites qu'il nous faut communiquer. Un enfant qui n'a pas de limites sera malheureux. J'entendais ce témoignage d'un jeune de 13 ans qui a été arrêté après avoir commis il avait bu et il a tué quelqu'un. Il n'avait que 13 ans, il a tué un homme. Et alors, ils lui ont posé ces questions par rapport à ses parents. Mais tu étais dans une famille heureuse, tes parents te laissaient faire des choses, etc. Et puis l'enfant a eu cette réponse que j'ai notée. Il a dit ceci: si mes parents m'aimaient, ils m'auraient interdit de sortir le soir. C'est un enfant qui n'avait pas de limite, en fait. Et ses parents n'ont pas pris le temps, n'ont pas pris le soin de lui dire: voilà, telle heure tu rentres. Et lui, plus il allait, plus il rentrait tard, plus il a fréquenté des mauvais milieux. Et ce n'est pas un témoignage d'amour que de laisser faire tout et n'importe quoi à son enfant. Par expérience, on en a des témoignages, on sait que si on n'a pas fixé de limites, eh bien, on a fait confiance à l'enfant, on ne lui donne pas d'horaire de rentrée, etc. Eh bien, on est en train de le laisser partir sur une voie mauvaise. Et en tant que parent, il nous faut vraiment veiller à cela. J'ai pas mal d'exemples à ce sujet. Mais on va passer au deuxième terme, la correction. Puisqu'il est question d'obéissance et de correction. Je vous lis la parole vivante qui dit, le verset 4, « Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers sentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir. » Et les reprendre, élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Et ce qui est intéressant dans ce verset 4, c'est que Paul, ici, établit un équilibre. Un équilibre dans l'éducation des enfants. C'est-à-dire, il évite 2 écueils dans lesquels nous pouvons tomber. Premièrement, premier écueil, c'est le laxisme, c'est-à-dire laisser faire notre enfant. Même en vue de son épanouissement, c'est un petit peu une mentalité d'une certaine psychologie aujourd'hui, parce qu'on leur dit, si vous leur interdisez, vous allez le frustrer, etc., etc. Donc le laxisme, c'est quelque chose que nous devons éviter. Et l'autre écueil, c'est de les irriter. C'est ce qu'il mentionne ici. C'est-à-dire que des parents trop intransigeants, qui vont les punir de manière trop violente, trop forte, excessive, eh bien, ça va produire un effet contraire. C'est que l'enfant va se rebeller contre ses parents. On ne doit pas se défouler sur nos enfants en les battant, du fait qu'ils sont inférieurs, qu'ils sont plus petits, je veux dire, en taille. C'est plus facile pour nous. Donc, on ne doit pas en profiter parce que la Bible dit que ça va les irriter. N'irritez pas vos enfants et ça va être mauvais. Donc voyez que l'équilibre est là. Ni laxiste, ni intransigeant, mais une éducation dans les voies de Dieu. Je reviens à la parole de Dieu. Vous avez la correction qui revient abondamment, surtout dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 22, verset 15. Il est dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. » Et vous avez plusieurs versets qui montrent que la correction est bonne et nécessaire. On va dire que la correction, ce n'est pas celle qui intervient en premier. Il y a eu d'abord des avertissements, et ensuite, au bout d'un ou deux avertissements, eh bien, si l'enfant n'obtempère pas, la correction arrive. Mais il faut que la correction arrive pour qu'il sente que vraiment il y a une autorité au-dessus de lui. Si on remet toujours la correction et qu'on ne donne que des avertissements, l'enfant le comprend. Et ainsi, il va prendre ce mauvais pli d'aller toujours plus loin et il sait qu'il n'aura pas la correction. Donc, si les parents craignent de le corriger, ils le regretteront par la suite parce que l'enfant peut se montrer rebelle, arrogant, irrespectueux, etc. Et c'est à nous, parents, de leur inculquer les valeurs morales, de lui apprendre le respect, le goût du travail, le goût à l'effort, la sagesse, la modération, etc. C'est à nous de lui communiquer ces valeurs. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas le monde qui va lui communiquer, c'est à nous. Deuxième aspect dans ce point, c'est l'éducation spirituelle. On a parlé de l'éducation, bien sûr, morale. J'aimerais lire avec vous dans le psaume 78, pour vous montrer, on va lire trois passages qui nous montrent la responsabilité spirituelle que nous avons en tant que parents pour l'éducation, on va dire, l'éducation spirituelle de nos enfants. Psaume 78, verset 1. « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Amen. » Je vous lis on va lire un deuxième passage dans Proverbe 22 et au verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et une dernière lecture dans Deutéronome chapitre 6 et au verset 5. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Alors, d'après ces trois passages, on peut en synthétiser quatre éléments importants. Premièrement, c'est parler des louanges de l'Éternel. C'est dans le psaume 78. Les parents, donc, sont chargés de communiquer les merveilles de Dieu à leurs enfants, de leur parler des louanges de Dieu. Ce qui signifie avoir un temps spirituel en famille. Un temps où on loue le Seigneur, où on partage quelques versets de la parole de Dieu, où on prie pour des besoins. Ce n'est pas nécessairement long, parce qu'il ne faut pas non plus, en faisant quelque chose de trop long, décourager l'enfant, mais passer un temps assez simple et devant le Seigneur, où l'enfant voit qu'on loue le Seigneur et qu'on aime le Seigneur. Deuxièmement, l'enseignement de la loi de Dieu par les pères. C'est bien mentionné dans le psaume 78, où le rôle des pères est important vis-à-vis de leurs enfants. Il est mis en avant dans de nombreux passages de la parole. Le rôle des pères pour conduire le temps spirituel, pour conduire leurs enfants au Seigneur. Et bien souvent, les pères ont démissionné de cette responsabilité spirituelle en le confiant soit à leur épouse, soit à l'école du dimanche, en le confiant à d'autres, et en se désintéressant plus ou moins, ou en voyant ça de loin, de leur place en tant que responsable spirituel dans leur famille. Bien sûr, la place de l'épouse sur le plan spirituel est importante et elle doit apporter aussi. D'ailleurs, elle le fait souvent plus volontiers et d'une manière plus naturelle parce qu'elle en voit davantage l'intérêt que le père. Je pense à ce verset de Proverbes chapitre 6 et verset 20 qui nous dit « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » On voit que la mère aussi donc enseigne. Mais quelquefois, ce sont les deux parents qui ont démissionné, le père et la mère, et il n'y a plus de place pour un temps spirituel auprès des enfants, dans la famille, et cela va manquer. Il arrive parfois que le père ne prie pas, ou qu'il manque d'intérêt pour la parole, ou qu'il considère que ces choses, c'est pour l'Église. Et c'est au père de réagir en premier, de véritablement prendre leur place de leader spirituel dans la famille. Et ainsi, bien de partager la parole, un texte biblique, prier, etc. C'est important. Le but, c'est vraiment que nous-mêmes, nous soyons un modèle pour nos enfants, qu'ils vont pouvoir reproduire, et puis en plus, bien de leur donner la confiance en Dieu. Troisième chose qu'on voit dans ces passages, c'est que nous devons instruire l'enfant, leur donner des conseils sages. Ça, c'est aux parents de le faire. La version second révisée dit « oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre ». Et j'aime bien cette expression de « orienter ». C'est véritablement ce que doivent faire les parents qui sont comme des tuteurs pour donner à l'enfant une bonne direction. On va donner des repères spirituels, on va lui donner la connaissance de la vérité, de la bonne voie, etc. Et c'est notre rôle. Et quatrième chose que l'on voit dans ces passages, c'est que nous devons inculquer l'enfant. Alors, qu'est-ce que veut dire inculquer? Ça signifie faire entrer quelque chose dans l'esprit en profondeur et de manière durable. Voilà la responsabilité des parents, des pères particulièrement. Faire rentrer dans le cœur de leurs enfants, donc, la parole de Dieu, le message de l'Évangile, etc. Il s'agit de graver les vérités, de les imprimer dans le cœur de l'enfant. C'est un travail au long terme qui portera ses fruits. Et on se rend compte que la parole de Dieu insiste pour que ça soit fait à la maison. On l'a lu tout à l'heure, à la maison et même en voyage. Donc, dans la famille, c'est le premier lieu, c'est le lieu principal, je dirais ce matin, d'éducation spirituelle de nos enfants. Nous ne devons pas démissionner en disant « l'école du dimanche va s'en charger, l'église va s'en charger, va s'occuper de ça ». Non. En tant que père, en tant que mère, nous en sommes premièrement responsables aux yeux de Dieu. Quatrième et dernière partie, c'est accepter leur départ. On avait déjà cité ce verset. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Alors ça veut dire que les enfants ne nous appartiennent pas, qu'ils nous sont confiés un temps assez bref finalement, et il faut mettre ce temps à profit pour leur donner l'éducation, la meilleure orientation possible, et les enfants après vont faire leurs propres expériences. Il y a une chose que les parents, nous ne pouvons pas communiquer à nos enfants, c'est l'expérience. Nous pouvons leur parler de notre expérience, mais ils devront faire leur expérience propre, parce que, vous l'avez certainement remarqué, vos parents, comme mes parents ont vécu dans une certaine époque, moi je vis dans une autre époque, mes enfants seront parents dans une autre époque, et ainsi il y a ce qu'on appelle les conflits de génération, et donc chacun fera ses propres expériences dans l'époque où il vit, et dans les moments qu'il vit. Un jour ils quitteront le domicile, et à leur tour ils formeront une nouvelle famille. Et il s'agit de ne pas les retenir. Il y a parfois des parents qui sont un peu mère poule, si on peut dire, qui veulent les garder toujours à la maison. Et quelque part, ça empêche l'épanouissement de l'enfant qui a besoin de former sa propre famille. Quand ça sera le temps, bien sûr. En conclusion, bien, la responsabilité des parents, on l'a vu, elle est très importante. À la fois sur le plan moral et sur le plan spirituel. Et en tant que parent, on a besoin de vraiment de toute l'aide de Dieu pour éduquer les enfants, les éduquer dans la parole, les éduquer aussi, les garder dans ce monde de, de péché, où il y a beaucoup de choses mauvaises. Alors que Dieu bénisse nos familles et les parents au milieu de nous, et puis les futurs parents peut-être aussi, et, ou les grands-parents qui ont à nouveau un contact avec les plus petits, et ainsi que Dieu nous aide à transmettre ses valeurs. On a pas mal d'exemples où ce sont des grands-parents qui ont pu communiquer la foi ou quelque chose de Dieu à leurs petits-enfants, et c'est positif. Donc même en tant que grands-parents, il y a toujours une possibilité pour leur parler du Seigneur ou quelque chose. On va prier. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole et pour tous ces exemples qui nous montrent notre responsabilité. En tant que parents, nous te prions de bénir tous les parents dans notre assemblée, de nous donner vraiment la force, le courage, la persévérance pour l'éducation de nos enfants et particulièrement de l'éducation spirituelle, comme tu nous l'as demandé. Nous voulons te prier de bénir les pères particulièrement, afin qu'ils prennent véritablement leur place comme responsables spirituels et qu'ils puissent conduire un temps spirituel en famille. Bénis les épouses aussi et donne-leur la sagesse, l'intelligence pour aller de l'avant à ton service et dans toute l'affection qu'elles peuvent apporter aux enfants. Te remercions pour la famille et les familles que nous formons. Sois béni, Seigneur, en toutes choses, et à toi toute la gloire. Amen.